Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. C'est bien de louer notre Seigneur ensemble. Cette semaine, Dieu m'a donné le privilège, comme je vous ai annoncé la semaine dernière, j'ai pris 2 journées de congé pour participer d'un séminaire sur les psaumes, les fondements herméneutiques ou les fondements de l'interprétation des psaumes. Et donc j'étais vraiment gâté par le Seigneur pour participer de ces séminaires, mais plus encore pour moi c'était une semaine intense de travail parce qu'on a pas mal discuté avec le conseil sur les prises de décision à partir de cette épidémie qui arrive dans notre pays. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a des églises qui sont fermées, il y a des églises qui sont touchées. Et je me sentis vraiment concerné à ces sujets-là. Quelle est la réponse que nous donnons ou comment réfléchir à ça, nous, en tant que chrétiens? Et bon, en prenant un peu ces réflexions que j'ai eues sur les psaumes, je vous apporte une réflexion sur le psaume 91. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi. Qui a apporté ses Bibles? Non? Dans les portables? Voilà. Parfois, j'aime bien vous piéger. On est tellement habitué avec les technologies. J'aime bien vous piéger de temps en temps. Donc, apportez toujours vos Bibles, que ce soit dans les smartphones ou... Dans ma version, Sommer... Psaume 91. Voilà, j'attends encore. Il est dit, celui qui s'habite tout près de tout, du Très-Haut, repose un lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet des loiseleurs et de la peste et du fléau. Il t'abrite de son aile et caché sur son plumage, tu trouveras un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre ni terreur la nuit, ni flèche qui vole durant la journée, ni peste rôdant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Quand 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'Éternel est mon refuge si tu as fait du Très-Haut ton abri. Aucun mal ne t'atteindra. Nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures, car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère, et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent, parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur. Je vais le sauver et je protégerai, car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, j'essaierai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire, je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. On va prier à nouveau. Seigneur mon Père, devant nous, nous avons ta parole qui vient pour nous exhorter, mais aussi, Seigneur, pour nous consoler et pour nous amener à la confiance en toi, Seigneur. Nous te prions que ton Saint-Esprit puisse parler dans nos cœurs et qu'on puisse comprendre et saisir cette parole pour notre vie. Nous te prions au nom de Jésus. Cette psaume, pour moi, c'est un psaume qui m'a suivi toute ma vie. Il m'a suivi toute ma vie dans les moments positifs, mais aussi dans les moments de douleur. C'est un psaume, quelque part, qui nous amène à une foi, presque une foi d'un enfant. Un enfant, quand il est né, il sort du cocon, du ventre de sa mère. Et pendant des années, il ne se préoccupe pas avec ce qu'il va manger, il ne se préoccupe pas avec le danger, sauf à des parents absents, bien sûr. Mais si ce n'est pas le cas, il y a toujours cette garde, cette protection, cette sécurité qui est donnée par les parents. D'ailleurs, l'image qu'il va nous utiliser dans le verset 4, c'est ça, c'est la maman poule. C'est la maman qui va protéger, c'est la maman qui va garder. C'est lui qui s'abrite sur ses ailes, se cache sous son plumage, tu trouveras un refuge sûr. C'est une belle image. Et je pense que la contreposition de ce psaume, elle est importante, pour qu'on puisse réfléchir à son sens. Et quelle est la contreposition? C'est que nous habitons dans une société qui nous amène à être adultes. Une chose que j'ai appris en regardant en tant que quelqu'un qui arrive dans une autre culture, qui arrive en France, qui commence à regarder, et peut-être je me trompe dans cette analyse, mais j'ai l'impression qu'en France, le plus important, c'est être indépendant. Par exemple, je peux citer un exemple, mon grand-père, quand il arrive dans un âge, il a tous mes oncles, mes tantes qui habitent à côté, qui est là toute la journée, et ici, j'ai l'impression que ça, c'est mal vu. Peut-être je me trompe, mais il y a quand même une fierté. Je veux être indépendant. Je veux faire les choses pour moi-même. Et en quelque part, notre temps dont nous sommes aujourd'hui nous amène aussi à une société qui est là aussi, qui essaye de tuer tous les dieux, qui essaye de tuer le Très-Haut. Et pourquoi? Parce que le plus important, c'est que l'humanité prend les rênes, qu'on arrive à guérir toutes les maladies, qu'on arrive à faire. Et nous sommes dans une société qui est dans un état illusoire. C'est penser être vraiment dans l'indépendance de Dieu. On peut tout faire. D'ici à quelques années, on est en train de parler du transhumanisme. Ça veut dire que d'ici à quelques années, on va arriver à mettre des organes, à travailler en laboratoire, on va arriver à se multiplier, à finir toutes les maladies. C'est un peu la vision que l'humanité est en train de se mettre en tête. Nous allons vaincre le mal ultime, nous allons vaincre la mort. Nous n'avons pas besoin de Dieu. Je pars de ces deux visions pour une troisième qui je pense qui est la vision que le psaume va nous parler. D'abord, notre texte il est divisé en trois parties. La première, c'est le verset 1. C'est le verset en quelque part qui va nous introduire. C'est le verset qui va nous dire de quoi ce psaume va parler. Et de quoi ce psaume parle? Il va parler du Très-Haut comme un lieu sûr. Il va parler de Dieu comme celui qui vient pour nous secourir. En lisant un peu l'utilisation de ces psaumes dans l'histoire, l'Église, dans ses martyrs, ils vont pendant des années utiliser ces psaumes comme une espèce de cri de guerre, comme une espèce de, voilà, on va affronter la mort, on va être tué au nom de Dieu, on va être persécuté, mais Dieu est avec nous. Et quand ils font ce cri de guerre, c'est parce que dans cette époque-là, ce qu'ils tenaient, c'est peu importe ce qui nous arrive ici, aujourd'hui, Dieu a préparé une place pour nous à son côté. Et ils vont utiliser ces psaumes pour parler non de la vie aujourd'hui, mais de la vie qui va arriver après notre mort. Or, j'ai l'impression, quand je discute avec des gens qui ne font pas partie de notre communauté, des non-croyants, j'ai l'impression que l'espérance d'une vie avec Dieu après cette vie, que l'espérance de cette promesse merveilleuse du Seigneur n'est pas vraiment intéressante. Nous voulons quelque chose maintenant, pas pour demain. Mais ce psaume, il nous met dans cette confiance en quelque part, et il va nous mettre dans cette confiance devant exactement le défi de la mortalité et du malheur qui pourra nous arriver. Regarde, du verset 2 au verset 8, il va décrire plusieurs situations, en fait, des détresses, des luttes, des combats. L'impression qu'on a même, c'est de voir une nation qui est en guerre, presque. Et il va parler d'un côté du malheur produit par les hommes, la flèche qui vole dans la journée. Il va parler des choses que nous pouvons faire les uns contre les autres, mais il va parler aussi des maladies qui pourront nous atteindre. Comme je disais, pour moi, c'est dans la réalité que ce psaume va transcrire exactement cette confiance. Ces paroles, en fait, viennent pour nous comme la réalité de quelque chose qui pourra nous arriver. Et qu'est-ce qu'il nous appelle à faire? Confiance dans le Dieu très haut. Confiance dans le Dieu très haut, de celui qui nous garde. De celui qui nous garde, non seulement comme un enfant est protégé par son père et sa mère, mais comme celui qui nous garde, parce que d'abord et avant tout, c'est lui qui a fait cette alliance avec moi et avec toi. Dieu nous a promis d'être avec nous tous les jours. Il nous a promis d'être là dans la souffrance et de nous protéger dans les moments des malheurs. Parce que je pense que c'est lui qui voit ces personnes mourir à sa droite et à sa gauche. Il n'est pas chouette, rien ne m'arrive. Ce n'est pas l'état d'esprit que je sens dans ce texte, au contraire. C'est dans les scènes des malheurs et des souffrances que la protection de Dieu se révèle dans la vie de ceux et celles qui ont cherché dans le Seigneur son abri. Ce texte, ce psaume m'appelle à deux choses. D'abord, la première, c'est que trouve celui et celle qui trouve protection en Dieu, ce sont ceux qui ont fait de lui sa protection. Ce sont ceux qui ont cherché en lui, le Dieu qui nous protège, qui nous garde. Ce sont ceux qui ont trouvé dans l'Éternel le Dieu merveilleux, protecteur, notre forteresse et notre secours, refuge dans les moments de difficulté. Une chose que j'ai appris, c'est que quand nous sommes en souffrance, la chose la plus difficile, c'est de mettre notre confiance en Dieu. Et pourquoi c'est difficile? Parce que quand la réalité essaye de nous confondre avec le malheur, on a la tendance à ne pas regarder Dieu qui est là avec nous. On a la tendance à regarder exactement le malheur, le doute, la souffrance. Et plus ces choses nous arrivent, plus loin de Dieu, parfois nous sommes. Plus difficile c'est de faire confiance en Dieu. D'ailleurs, c'est ces paroles, verset 11 et verset 12, qui sont utilisées par le diable dans la tentation à Jésus en Matthieu 4. Et il va dire, mais si Dieu est avec vous, jetez-vous d'ici, lancez-vous. Ces anges seront là pour veiller. C'est écrit, verset 12, qui ne te laisseront pas tomber. Et je pense que cette tentation de Jésus, elle s'inscrit à la modernité, à nos jours. Quand nous aussi, nous sommes confrontés parfois, à une réponse négative de Dieu, quand nous prions pour une guérison, quand nous prions pour quelque chose et on voit que ça n'arrive pas, le conflit vient. On remet en doute la parole de Dieu. On remet en doute ce Dieu qui nous dit qu'il est là, qu'on peut marcher sans crainte. Mais en quelque part, cette parole, elle vient pour confirmer ce que Paul va dire en Romains chapitre 8. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Regarde verset 14, il va dire, parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger, car il me connaît. Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. La parole de Dieu n'est pas remise en cause quand nous passons par souffrance, par des malheurs. La parole de Dieu, elle vient pour nous affirmer exactement ce que le monde veut nous faire croire, le contraire. Le monde veut nous faire croire que nous sommes tous seuls, qu'il n'y a pas de Dieu qui veille pour nous. Non, Dieu est là. Dieu est là dans notre vie quotidienne. Dieu est là dans les moments plus faciles et heureux de notre vie, mais il est là aussi dans les moments difficiles, dans les moments de difficulté, dans les moments de ténèbres. Ce psaume vient pour nous rassurer de ça, nous rassurer que nous avons un Dieu qui entend notre prière et qui nous délivre dans les moments difficiles. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, j'essaierai avec lui au moment de la détresse. Regarde, même dans ce psaume qui nous parle de Dieu pour qui prend soin de nous, même ce psaume qui nous parle de Dieu qui va nous délivrer dans les moments de difficulté, il parle aussi que nous aurons des moments de détresse et que c'est dans ces moments que Dieu sera là avec nous. Dieu sera là avec nous. C'est lui qui va nous délivrer. C'est lui qui va nous couvrir. Si nous voulons surmonter cette épreuve, si nous voulons passer par ce moment difficile, que ce soit par cette épidémie, que ce soit par des crises financières, que ce soit par des tribulations diverses qui peuvent arriver dans notre vie, ces psaumes nous invitent à chercher dans le Seigneur notre refuge et notre forteresse. C'est là qui vient ma deuxième parole, c'est que celui qui cherche dans le Seigneur, il est cherché par le Seigneur. Celui qui cherche dans le Seigneur à chercher en lui son secours et sa forteresse. Le Seigneur vient vers lui. Il y a un pas de confiance, des foi que nous devons faire, mais il y a aussi l'action de Dieu qui est là. Ce que Dieu nous demande, c'est de faire confiance à sa fidélité et à sa parole. C'est lui qui nous dit que lui va nous sauver. Et il est fidèle à sa parole. La confiance, ce n'est pas la confiance en nous-mêmes. Ce n'est pas la confiance dans ce que nous pouvons faire. Mais c'est la confiance que Dieu est là avec nous et qu'il est fidèle à sa parole. Et en plus, je trouve très intéressant parce que Jésus va dire quand le diable va le tenter avec cette parole, il va répondre: on ne doit pas tenter notre Dieu. Ah Dieu, tu es en train de me dire que tu vas prendre soin de moi, alors je vais faire tout le possible pour voir si c'est vrai. Je vais me jeter d'ici haut. Je vais aller dans l'hôpital où tous les gens sont avec l'épidémie pour les toucher. Voilà, Dieu est avec moi, rien ne va m'arriver. Parfois, quand j'entends certains propos, j'ai cette impression, si Dieu nous protège, alors je peux faire tout. Je peux faire tout. Il est un philosophe brésilien qui lui disait une chose: l'attention, ces petites peurs qu'on a quand on sort de la maison et on amène le parapluie parce qu'on sait qu'il va pleuvoir, quand on regarde la météo pour voir si ça fait froid ou pas, il dit ça c'est pas une chose des jeunes, les jeunes s'en fichent s'il va pleuvoir. D'ailleurs, il y a même au Brésil, il y a même cette expression: quand ta mère te dit amène le parapluie, fais-le parce que c'est sûr, ça va pleuvoir. Mais c'est une préoccupation en quelque part qui vient d'une sagesse des vies et d'une certaine compréhension que oui, la vie, elle va finir un jour. Je peux tomber malade, c'est plus difficile de me guérir. C'est plus difficile de faire, donc il y a une sagesse pratique qui s'y met en place. Je ne vais jamais oublier ce que mon médecin m'a dit à quelques semaines, à quelques mois. Quand je lui ai raconté, oui, c'est plus difficile maintenant. Avant, j'ai resté réveillé jusqu'à 2-3 heures du matin. J'ai travaillé à fond, 6 heures du matin, j'étais au pic, j'ai travaillé et tout. Maintenant, je me sens un peu plus fatigué que ça. Je vais dormir vers 10h, 11h, le plus tard. Je prends le thé avec mon épouse, comme deux vieux. Et il m'a dit: Monsieur Cardoso, vous n'êtes plus un étudiant, Monsieur Cardoso. Vous n'êtes plus jeune, c'est plus possible. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de miracles à faire. Il faut s'adapter à notre âge. Bon, j'ai 34 ans, hein, donc je vais faire 34 ans le mois prochain. Donc, je suis encore jeune, je peux encore faire. Mais il y a une compréhension qui vient de notre vie, quand on commence à prendre l'âge, c'est une compréhension de notre propre limitation. C'est quelque chose qu'on n'avait pas. Et donc, on commence à mettre en place certaines choses, parce qu'on sait que s'il pleut, et que si je n'ai pas mon parapluie ou ma couverture, je vais prendre un rhume. Et voilà, ça va prendre des semaines. Et... Donc, la sagesse m'amène à amener mon parapluie avec moi. Pourquoi j'entre dans cet exemple? Pour vous dire que c'est vrai. Quand Dieu nous parle ça, ce n'est pas pour nous mettre en danger et pour nous dire, voilà, qu'il vient les lions, qu'il vient les serpents, je vais marcher sur les serpents, ce n'est pas grave. Qu'il vient le lion, c'est Dieu qui va fermer la bouche comme il a fait à Daniel. Donc, merci Seigneur. Non. Prenons nos dispositions à ne pas nous mettre en danger. Mais sachons que toutes les choses ne dépendent pas de nous. Pour moi, c'est là l'enseignement central que je veux vous passer ce matin. C'est que malgré notre compréhension des choses, toute chose ne dépend pas de nous. Si Dieu ne veille pas sur la ville, on peut veiller comme on veut, le malheur va venir. Si ce n'est pas Dieu qui bâtit, en vain nous allons travailler. La compréhension du psaume nous amène à ça, à comprendre que les choses ne dépendent pas de nous. Nous devons faire ce qu'il faut faire. Mais nous devons garder dans notre cœur la dépendance à notre Dieu. Si ce n'est pas Dieu à faire, peu importe toutes les choses que vous allez mettre en place, ça va tomber. C'est ça que Jacques va nous dire. On dit on va faire ceci dans un an, on dit on va faire cela dans 3-4 ans. Prions à Dieu, parce que qui entre nous pourra rajouter une journée dans notre vie? Personne. Qui entre nous pourra faire quoi que ce soit pour empêcher un malheur? Personne. Mettons devant le Seigneur, prions, cherchons à faire de lui notre secours. Et comment on fait ça? Comment on cherche dans le Seigneur, dans le secours? Est-ce qu'on cherche seulement dans le jour du malheur? Est-ce qu'on cherche seulement quand les choses ne vont pas? Non. Parce que le verset et tous les versets nous amènent à croire que c'est parce que j'ai fait avant que le jour du malheur, lui sera mon abri. Ce texte nous amène à cette compréhension qui c'est pas seulement en cherchant le Dieu dans le jour du malheur, c'est pas seulement dans le cri de désespéré que Dieu va se révéler, au contraire. Parce que nous avons mis avant notre confiance en Dieu, parce qu'avant nous prions à Dieu, parce qu'avant nous mettons notre vie entre ses mains, le moment des malheurs, Dieu sera là avec nous. Ce psaume nous amène à la fin, à mettre aujourd'hui, maintenant, quand les choses vont bien, quand la prospérité est là, quand la joie est là, c'est là qu'il nous amène à mettre notre confiance. Pour que dans le jour des malheurs, Dieu puisse s'y révéler notre secours et forteresse. J'avais un pasteur qui disait souvent, nous voulons adorer à Dieu, nous voulons prier à Dieu, nous voulons entendre sa parole. Ce n'est pas que le dimanche, mais c'est tous les jours. D'ailleurs, parfois, j'ai l'impression que c'est le lundi et le mardi où Dieu va accepter notre adoration du dimanche. Parce qu'il ne sert à rien de venir ici chanter, louer, glorifier notre Dieu, si notre vie quotidienne n'est pas en adoration et en louange à Dieu. C'est ça que la parole nous dit. Je vous invite à prier et avec moi à renouveler notre prière ce matin en disant à Dieu, oui Seigneur, c'est toi notre forteresse, notre secours. Nous faisons confiance en toi. Dieu notre Père, au nom de Jésus, ta parole nous dit, Seigneur, que c'est lui qui te cherche. C'est lui qui fait de toi ton abri. C'est lui, Seigneur, qui se cache dans l'ombre de Tout-Puissant. C'est lui qui vient vers toi. C'est toi, Seigneur, qui viens vers nous. C'est toi qui nous dis, Seigneur, que tu es notre refuge et notre forteresse. Nous voulons tous ici, Seigneur, déclarer, tu es notre Dieu en qui nous avons confiance. Nous te demandons, Père, au nom de Jésus, de nous protéger, de nous garder. Nous te demandons, Seigneur, de renouveler en nous notre confiance en toi, jour après jour, comme tes miséricordes, comme ton amour s'y renouvelle tous les jours de notre vie, que nous aussi, Seigneur, nous puissions renouveler notre confiance en toi. Je ne sais pas, Seigneur, le cœur de chacun et chacune qui est entré là ce matin. Je ne sais pas les doutes, les travers, les difficultés, les questions que nous pouvons nous poser. Mais ce que je sais, Seigneur, c'est que toi, tu nous invites à faire confiance en toi. Toi, tu nous invites à vaincre le doute pour ce que tu as fait dans l'histoire, pour ce que tu as fait dans notre vie, Seigneur. Pour ton amour et pour ta grâce, tu nous invites à te faire confiance. Alors, Seigneur, ce matin, nous voulons renouveler nos vœux et nos paroles de confiance en toi et te demander, Seigneur, que toi, tu puisses être notre protecteur jour après jour. Nous sommes dans un moment, Seigneur, historique, difficile. Peut-être que nous avons des confiances, des pasteurs, des amis qui sont atteints de cette maladie, de cette épidémie. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses les protéger. Garde-le. Garde à chacun et chacune, Seigneur, pour que leur vie soit épargnée. Garde notre vie, Seigneur, au nom de Jésus. Nous mettons notre confiance en toi, Seigneur. Que toi, tu iras nous protéger et nous garder. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.